Bonsoir et bon début de semaine. Coupe d'Afrique des Nations 2015, la Côte d'Ivoire remporte la 30e édition de cette compétition devant le Ghana. La RDC occupe la 3e place du podium. Quel bilan dressé du déroulement de cette compétition? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 9 février 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Dr Jimmy Kabongo, il est analyste sportif. Bonsoir docteur.
Bonsoir madame.
Mohamed Kalambayi, ancien international, il est président des anciens Léopards, champion d'Afrique 1968, 74 et mondialiste. Monsieur Kalambayi, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et Herbert Tshibanda, journaliste et analyste sportif. Monsieur Tshibanda, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Vous savez, les Black Stars du Ghana se sont inclinés devant les éléphants de la Côte d'Ivoire en finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, soit 9 tirs au but contre 8. C'est le deuxième sacre de la Côte d'Ivoire à la CAN 2015 qui a eu lieu du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale après le trophée remporté en 1992. Les Léopards de la RDC, eux, ont regagné Kinshasa hier dimanche après avoir arraché la 3e place de cette CAN 2015. Plus de détails sur cette compétition dans cet entretien entre Nanambala et Berry Franklin Lutchaka.
Nanambala, bonsoir.
Bonsoir, Berry Franklin Lutchaka.
Vous avez été l'envoyé spécial de Radio Capi à la CAN Guinée 2015. Et la CAN, justement, elle a pris fin depuis hier dimanche. Que peut-on retenir de la performance des équipes lors de cette compétition?
Commençons d'abord par notre pays, la RDC, qui a été dernière à se qualifier au cours de cette 30e édition de la CAN. Placée dans un groupe B avec la Zambie, le Cap-Vert, la Tunisie, elle s'est qualifiée avec 3 points ex aequo avec Cap-Vert, où elle a juste bénéficié du règlement du nombre de buts marqués. Arrivée donc en quart de finale, elle a créé la sensation à Bata, où elle a renversé le score après avoir été menée par 2-0. Elle a battu le Congo-Brazzaville par 4-2. Cette victoire lui a permis d'accéder au dernier carré de la compétition où elle croise la Côte d'Ivoire. Elle tombe sur le score de 3-1 pour enfin terminer en beauté la compétition en match de classement 4-2 au tir au but face au pays hôte, la Guinée équatoriale. Alors, quant à la Côte d'Ivoire, elle a reçu son deuxième sacre continental après seul remporté en 1992 face au même Ghana au tir au but. C'était la 4e finale de la CAN pour les éléphants et elles se sont toutes finies au tir au but.
Est-ce qu'il y a des équipes qui se sont démarquées lors de cette compétition?
À mon humble avis, nous devons d'abord citer le pays organisateur qui est la Guinée équatoriale où son équipe a été une surprise pour nous de le retrouver au dernier carré de cette compétition puisque la Guinée équatoriale n'a eu que moins de 60 jours pour organiser sa compétition et monter également une équipe et les retrouver à ce niveau de la compétition. Pour moi, en tout cas, ça a été une chose extraordinaire et nous devons également citer le Congo-Brazzaville qualifié pour le quart de finale avec 7 points. C'était vraiment un exploit. Donc ce sont les deux équipes de la compétition qui, à mon humble avis, nous ont vraiment marqué.
Comment alors elle a été organisée cette compétition?
Le Maroc a dû décliner l'offre à la dernière minute pour l'organisation de cette CAN pour raison du virus Ebola. On peut excuser la Guinée équatoriale pour les conditions d'hébergement moyennes et pour l'état critique de ses pelouses. Même indulgence pour les conditions climatiques difficiles. Les joueurs de 16 nations, en tout cas, ont dû se reprogrammer en mode équatorial au dernier moment. On sera plus sévère sur les questions de sécurité qui ont mis en danger le supporter ghanéen lors de la demi-finale. On peut indirectement aussi incriminer le pays hôte pour un arbitrage maison qui l'a grandement favorisé contre la Tunisie en quart de finale. C'est vraiment dommage car l'arbitrage a été globalement bon pour cette édition de 2015. La CAN 2015 s'est parfaitement bien déroulée et n'a pas, jusqu'au moment où nous vous parlons, occasionné d'inquiétudes à propos de la santé des joueurs, des spectateurs et également nous, de journalistes qui avons pris part à cette compétition.
Merci beaucoup Nanambala et bonne soirée chez vous.
Merci.
Merci à vous deux, Nana Mbalaye et Berry Franklin Louchaka, Mohamed Kalambaï. Je rappelle que vous êtes un ancien international. Vous êtes président des anciens Léopards, champion d'Afrique en 1968, en 1974 et même mondialiste. Vous avez pris part à cette compétition dont vous revenez de la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. C'était prévisible?
Bon, madame, il faut revenir à tout ce que nous avons connu en Guinée équatoriale. Il faut dire que c'est sans surprise que la Côte d'Ivoire s'est classée premier à arracher les titres de la compétition, la coupe de la compétition. Peut-être que les Ghana méritaient aussi, mais il fallait voir le professionnalisme, le respect tactique professionnel des Ivoiriens qui ont réussi à gagner par pénalty.
Et donc c'est le professionnalisme qui a joué en faveur des Ivoiriens.
Absolument.
Mais comment vous jugez la performance des équipes lors de cette compétition? Est-ce qu'il y a eu des équipes qui se sont démarquées, qui ont créé la surprise lors de cette CAN 2015? Allô?
Allô, oui.
Est-ce que
pour créer la surprise, madame, je disais que il faut aller jusqu'au bout. Les équipes qui sont parties jusqu'au bout ont créé pratiquement la surprise. Parce qu'il fallait voir, depuis le début, ils ont eu un cheminement normal. Ça veut dire ils ont gagné, ils ont fait un match nul et jusqu'à ce qu'ils sont parvenus à jouer la finale. C'est comme par exemple la République démocratique du Congo, notre pays. Quand vous prenez le premier match et le second match, je crois que personne ne pouvait penser que nous pouvons aller jusqu'en quart de finale. Mais surprise, comme vous l'avez si bien dit, a été surtout contre le Congo, avec le patriotisme, avec l'effort proprement dit du Congolais, nous avons pu gagner ce match-là. Et c'est une des équipes surprises. Sans parler de la Guinée-Bissau, qui n'a pas eu tout le temps d'organiser. Et la compétition...
La Guinée-Équatoriale, vous voulez dire?
Oui.
Vous parlez de la Guinée-Équatoriale?
Oui, de la Guinée-Équatoriale, c'est sûr. Oui, c'est une équipe qui n'a pas eu et le temps d'organiser cette compétition et le temps d'organiser son équipe en elle-même.
Alors, Monsieur Mohamed Kalambaï, est-ce que la RDC aurait fait mieux en allant jusqu'en finale?
Ça n'aurait pas été une surprise au cas où les joueurs étaient potentiellement réunis dans un bon sens. Ça veut dire qu'il y a manqué un peu de professionnalisme, comme je le dis, dans le chef de la tactique proprement dite sur le terrain. Ils se sont débrouillés pour parvenir à jouer le demi-finale.
Alors l'Algérie était donnée comme grand favori de cette compétition. Malheureusement, ce pays a été éliminé par la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça vous a surpris? Ça a été une surprise? Ou c'était normal vu la composition ou le professionnalisme, comme vous l'avez dit, de l'équipe ivoirienne?
Oui, mais c'est ça. Je parlais de l'équipe professionnelle de l'équipe ivoirienne. Parce qu'il faut voir, dans le premier temps, ce match-là, nous pouvions le mener, mais nous n'avons pas pu le faire dans le premier match, dans les premières minutes. Et avec ça, ça nous a causé ce qu'on a dit, léthargie de l'équipe, quoi. À un certain moment, on a laissé jouer le professionnalisme des Ivoiriens. En deuxième période, nous n'avons pas su tenir tête. Pourquoi? Parce que, déjà au départ, nous avons perdu la coche.
Alors, je suis en train de parler de l'Algérie, Monsieur Kalambaï, pas de la RDC.
De
l'Algérie, l'équipe...
Ah, de l'Algérie.
Oui,
oui, l'Algérie, pour ce match contre la Côte d'Ivoire, elle a perdu. Comme ils ont perdu un match, c'est ça qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Parce que dans la grande partie de temps, dans des compétitions comme ça, ce n'est pas les équipes qui débutent fort, qui terminent fort. Ils débutent fort, mais à un certain moment, ils se cassent les dents et ce sont les gens qui viennent timorer, qui parviennent à faire même la fille.
Alors, comment vous expliquez, Monsieur Mohamed Kalambaï, je rappelle que vous êtes un ancien international, comment vous expliquez, par exemple, la défaite du Cameroun qui une grande équipe, un grand pays du foot quand même. Monsieur Kalamba, je crois qu'on a un problème avec votre ligne. La réalisation, on va essayer de vous retrouver. Mais est-ce que vous m'entendez?
Oui, moi je vous entends bien.
Alors ça s'est amélioré. Je disais, comment vous expliquez la défaite du Cameroun?
Le Cameroun, ça veut dire que c'est le Cameroun.
On va essayer de vous rappeler parce que là, la ligne est en train de se détériorer. Avec moi dans ce studio, Dr Jimmy Kabongo, qui est analyste sportif. La victoire de la Côte d'Ivoire ne vous a pas surpris? Fallait s'y attendre, docteur?
Ben, écoutez, lorsque la compétition a commencé, évidemment, la Côte d'Ivoire était parmi les équipes favorites, mais elle n'était pas seule. Il y avait l'Algérie, il y avait le Ghana, il y avait les gros bras africains. Les gros bras africains, la Côte d'Ivoire fait partie. Effectivement, elle a commencé mollo. Elle a fait deux nuls au début et puis elle a commencé à monter crescendo pour arriver au maximum de ses possibilités. Et je suis d'accord avec M. Mohamed lorsqu'il dit que ce n'est pas toujours celui qui commence très fort qui arrive jusqu'au bout. Parce que c'est une compétition qui se déroule en 3 semaines. C'est long. On joue pratiquement un match tous les 3, tous les 4 jours. Il faut gérer les organismes. Il faut gérer les blessures, il faut gérer la fatigue. Donc c'est une compétition de longue haleine. Il faut beaucoup de paramètres qui jouent en même temps. Et la Côte d'Ivoire a su gérer ses paramètres, bien que à plusieurs reprises, elle a eu vraiment du mal avec le Ghana. Le Ghana qui, à mon sens, si c'était au point, le Ghana avait quand même légèrement mieux joué parce qu'elle a frappé 2 fois sur le montant. Et bon, et dans ce genre de compétition, effectivement, il y a un peu de chance. Les tirs au but, les 2 premiers tirs ont été ratés par le Ghana. Bon, voilà, elle gagne, elle mérite parce que elle a prouvé quand même que le jeu qu'elle a produit, surtout à partir des quarts de finale, demi-finale, un final, elle mérite quand même avec les joueurs qu'elle a, les Yaya Touré, les Gervinho, ça ce sont des
crashs. Championne d'Afrique.
Ah, oui, elle mérite d'être championne d'Afrique. Donc on ne peut pas crier au scandale. C'est vraiment une des favorites, une des équipes favorites qui est arrivée à la fin.
Alors docteur, plutôt moi-même, Monsieur Mohamed Kalambaya, parlait du professionnalisme de joueurs qui voient rien.
Absolument, absolument. Vous savez, j'ai eu la chance de commenter ce match. J'avais dit que la Côte d'Ivoire aurait très très difficile. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, elle a un jeu où elle a besoin d'espace. Des ailiers comme Gervinho, comme Gradel, ce sont des garçons qui ont besoin d'espace pour s'exprimer, pour aller très vite. Et là, contre le Ghana, c'était pas le cas. Le Ghana a bloqué le jeu, a joué compact, le bloc défensif, le bloc médian, l'attaque, toutes ces lignes étaient très serrées les unes des autres, se déplaçaient en bloc, donc ils n'avaient pas vraiment d'espace pour pouvoir faire le jeu qu'elle aime faire habituellement. Mais elle a quand même su résister, ne pas perdre, parce que lorsqu'on ne sait pas gagner un match, il faut ne pas le perdre. Ils ont tenu bon, 90 minutes, 120 minutes, et puis ils ont gagné.
Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont marqué dans cette compétition, lors de cette compétition?
Je reviendrai un peu sur ce qu'on a dit en début d'émission. Les amis qui sont passés tout à l'heure, ils ont cité la Guinée équatoriale. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que ce sont des garçons qui ont eu presque pas de temps pour se préparer. Et puis, ils sont arrivés là, malgré qu'on peut dire qu'en quart de finale, il y a eu un peu de favoritisme dans l'arbitrage. Mais tout ce qu'ils ont fait depuis le début, ils ont montré un football cohérent, réfléchi, organisé, collectif, avec un Balboa extraordinaire, un joueur de grande classe. Donc, cette équipe m'a réellement surpris, malheureusement, avec un peu d'arbitrage, ça a un peu faussé les choses, mais malgré tout, c'est une des grandes surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations. La RDC, c'est une des grandes...
Justement, j'allais vous poser la question sur la RDC, 3e place du podium.
Mais écoutez, lorsqu'on a fait les tirages au sort, moi je me rappelle, on a fait les tirages au sort et on était dans le groupe de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de la Sierra Leone. personne n'aurait parié un centime sur la RDC pour arriver jusqu'à ce stade. Ils l'ont fait, donc c'était une grande surprise et ça nous donne beaucoup d'optimisme pour l'avenir, parce que on a déjà une équipe qui a un fondement, qui a une base et qui pourra s'améliorer au fur et à mesure. On a cité tout à l'heure le Congo-Brazza aussi. Le Congo-Brazza, vous savez, ils sont un peu comme dans la même situation que nous. Ils étaient quasiment éliminés. Ils ont été éliminés, repêchés, eux. C'est encore pire que nous. Parce que eux, ils ne devaient même pas venir, mais ils sont arrivés, ils ont été repêchés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Extraordinaire. Ils ont explosé le Gabon. Ils ont terminé le premier tour avec 7 points. C'est l'équipe qui avait le plus de points. Donc ça, c'est vraiment une grande surprise. Et ça, à mon avis, c'est Claude Leroy. C'est Claude Leroy qu'il faut féliciter.
Merci docteur Jimmy Kabongo Herbert Chibanda, vous êtes journaliste et analyste sportif. D'abord, quelle analyse vous faites de cette victoire de la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui championne d'Afrique?
Oui, moi je crois que pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une surprise. C'était parmi les nations qui étaient pointées comme favorites tout au début de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas une surprise, mais le fait qu'ils aient enlevé plutôt le trophée, je note quelques éléments, le réalisme, le professionnalisme, comme ont dit mes prédécesseurs, mais j'ajoute aussi quand même un petit coup de chance, parce que à l'arrivée, quand on a un adversaire comme le Ghana, qui a présenté aussi un jeu très élaboré, dans un match éminemment tactique, il faut l'avouer, avec un compartiment défensif qui a mis pratiquement en échec tous les assauts des Ivoiriens. Et on a vu Gervinho souffrir. Il n'a pas eu la moindre occasion pour solliciter les buts de l'équipe adverse. Bon, un jeu un peu bien élaboré de part et d'autre, un match, est, comme je venais de le dire, éminemment tactique. Eh bien, la Côte d'Ivoire, qui a gagné sans avoir battu son adversaire, dans les temps réglementaires, je vais parler donc des 90 minutes et même les prolongations, et qui l'a emporté à la séance des tirs au but. Il faut dire que c'est quand même un tout petit coup de chance aussi, dans la mesure où la séance des tirs au but, c'est la loterie. Et je crois que de ce côté-là, c'est peut-être le joueur qui est psychologiquement fort, qui arrive à faire très bien les résultats. On a vu à cette séance de loterie des tirs au but, de rater dans tous les deux camps. Quand on a botté la première fois sur le 5-5, il y a eu le 5 qu'on a marqué de suite de tous les deux côtés, et puis Copa Barry a eu l'occasion de se refaire sa notoriété sur l'échiquier continental et surtout dans son pays. Donc c'est pas une surprise, mais les Ghana ne déméritaient pas une finale, c'est ça la réalité. Et donc la Côte d'Ivoire qui l'a enlevé les trophées avec cette génération qui était qualifiée de maudite, et qui s'est rattrapé alors que certains des cadres sont partis, notamment Didier Drogba. C'est pas forcément une surprise, je crois que c'est pas une surprise.
Donc,
dans
les pays
de nation, comme c'est la Côte d'Ivoire, donc moi je me dis que c'est pas une surprise.
Alors, puisque vous avez parlé de Copa Barry, c'est le gardien de l'équipe ivoirienne, on va revenir en RDC pour parler aussi de la performance des Léopards qui sont troisième sur les continents. On va parler de Kidiaba aussi qui a fait preuve de beaucoup, qui était très performant aussi quand même dans cette compétition et qui en même temps met fin à sa carrière internationale.
Oui, mais justement, vous savez, Kidiaba, c'est un gardien qui nous rappelle bien de choses. Je crois qu'il porte le prénom de Robert. Ça nous rappelle Kazadi Robert, qui avait écrit son histoire par rapport à notre football en lettres d'or. Kidiaba a fait la même chose. Il espérait la finale. Je crois que dans une interview avant de quitter le pays et avant de gagner la Guinée équatoriale, il rêvait la finale et c'était permis. Certaines personnes pensaient qu'il se permettait un peu trop, mais il est arrivé quand même sur le podium. Sa carrière internationale prend fin avec une médaille au cou. Bon, moi je me dis quand même que c'est un gardien qui nous a sauvé plus d'une fois. Regardez la phase des poules comme elle était assez compliquée. D'ailleurs, c'est les premiers enseignements. Il n'y a aucune sélection qui s'est qualifiée à l'issue de la deuxième journée au niveau de poules. Et Kidiaba a été parmi les derniers remparts pour notre équipe nationale. Et si vous faites la rélecture de tous les trois matchs, que ce soit contre la Tunisie, que ce soit contre la, contre la Zambie et même le Cap-Vert, et Kidiaba était impérial, il intervenait quand il le fallait. Alors lui, je crois que c'est parce qu'il y a but seulement quand il y a erreur tactique. Je crois que s'il y a eu erreur tactique qui a amené quelques buts que nous avons encaissés, Kidiaba n'a pas tellement de responsabilité sur l'ensemble. Sinon, une toute petite responsabilité quelque part. Donc c'est un grand gardien. Par rapport à la RDC, ça il faut l'avouer, un peu comme les amis l'ont dit, c'est parmi les grandes surprises à mon avis de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quand vous suivez même toute la presse internationale, quand elle a présenté les différentes nations qui se sont qualifiées pour la phase finale, la RDC n'était pas très attendue d'ailleurs pour la suite de la compétition après la phase de poule. Donc la RDC c'est une grande surprise qu'on ait terminé en troisième position. Et il y a aussi la Guinée équatoriale pour les raisons qui ont été évoquées. Donc moi je crois que la RDC vient de retrouver ses repères pour que les jours à venir soient un peu plus intéressants si nous y mettons un peu plus d'organisation, ce qui nous faisait plutôt défaut.
Merci Herbert Tshibanda. Monsieur Kalambaye, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis toujours en ligne, madame.
Voilà, on vous retrouve. Je disais tout à l'heure, vous êtes un ancien international, un gardien même. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que Kidiaba nous a offert lors de cette compétition?
D'abord, c'est une fierté pour moi-même, parce que je suis parmi les gens qui ont formé Kidiaba, et à Mazembe, et à l'équipe nationale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais été entraîneur d'un gardien de but à l'équipe nationale pendant au moins 5 ans. Donc c'est avec l'équipe d'Aba que nous avons joué non seulement le quart de finale, et même le quart de finale de Champions League, et même le demi-finale de Champions League en 2000, 2001-2002. Kidiaba, je l'ai dit, c'est un garçon d'abord qui est poli, qui est discipliné et qui a donné des preuves plus d'une fois. Non seulement Kidiaba a joué cette finale-là, Kidiaba a déjà joué la finale de la Coupe du Monde de club. Ça veut dire que c'est un joueur qui, on peut dire aujourd'hui, qui joue avec son professionnalisme. Parmi ceux qui le méritent bien dans cette équipe.
Alors, M. Kalambaye, un mot aussi sur l'entraîneur Florent Ibengue, qui, grâce à lui, il faut le dire, hein, la RDC est aujourd'hui quand même troisième meilleure équipe de l'Afrique.
Ah, ça veut dire, quand vous prenez seulement Ibengue, ça veut dire qu'il n'a pas de staff. Il faut dire le staff Ibengue. Ça veut dire qu'il faut faire participer tous ceux qui sont à côté de lui. C'est pas un travail personnel. C'est un travail de tout ce staff auquel il est l'entraîneur principal. Mais il a quand même des seconds. C'est ce qu'il faut tenir compte à chaque fois que vous devez faire monter les cotes d'un entraîneur.
Merci M. Kalambaye. Mais avant de passer la parole à Dr. Jimmy Kabongo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga.
Professeur Ignace Ndala depuis Kolwezi au Katanga. D'une façon globale et par rapport au contexte dans lequel la CAF s'était retrouvée, l'essentiel a été fait. Pendant, certaines insuffisances sont à relever, comme le comportement de certains officiels, je pense à certains arbitres, le manque d'engouement pour plusieurs matchs, problème d'éducation ou de discipline chez les supporters, et la tendance au favoritisme dans le pays hôte, comme s'il fallait à tout prix le récompenser. Du moins, disons merci à la Guinée équatoriale pour sa promptitude.
Alors, Monsieur Kalambaye, comment vous avez jugé, de façon globale, générale, l'organisation même de cette CAN?
Mais c'est comme vient de dire M. de Kolwezi, vraiment, il faut donner un coup de panache à ce pays de l'Afrique centrale qui est la Guinée équatoriale. Organiser dans une telle compétition en payant un mois et demi et avoir une équipe qui a pratiquement été parmi les équipes surprises, qui a joué les demi-finales contre nous, c'est dire que ce sont des gens qui avaient mis du cœur. Et avec ça, ils méritent un coup de panache, quoi.
Alors, il relève certaines insuffisances lors de cette compétition, comme par exemple le comportement de certains officiels, le manque d'engouement pour la plupart des matchs, les problèmes de discipline chez les supporters et la tendance au favoritisme face aux pays organisateurs.
Madame, je crois que dans chaque entreprise, on ne peut pas dire que le tout a été parfait. Vous avez dit d'abord, nous remercions le président de ce pays-là d'avoir ce courage politique de pouvoir accepter une telle organisation et en un rien de temps. Un mois et demi, madame, c'est vous dire que c'est s'il avait eu trois mois, ça aurait été autre chose que ce que nous sommes en train de raconter aujourd'hui. Quand il y a des erreurs d'arbitrage, ça ne concerne pas le pays organisateur. Quand il y a, par exemple, l'indiscipline dans les chefs de certaines personnes qui sont allées là-bas, ça n'a rien à voir avec l'organisation.
Merci, Monsieur Kalambaye. Docteur Jimmy, l'organisation de cette compétition, de façon générale, comment vous l'avez jugée?
Mais non, tout d'abord, je tiens à faire un petit coucou à Mohamed Kalambaye, parce que tout ce qu'il a dit là, c'est tout ce que je pense. Je ne sais pas même si j'ai quoi que ce soit à rajouter. La Guinée équatoriale a sauvé cette Coupe d'Afrique des Nations.
Ça peut féliciter.
Oui, parce que sinon, elle n'aurait pas eu lieu. Elle n'aurait pas eu lieu. Le Maroc avait désisté. Il fallait aller au Qatar. On ne pouvait pas aller au Qatar. Et eux, ils l'ont accepté. Bon, alors, on accepte. Et puis, on tire le chapeau bas à l'organisation. Même si, évidemment, il peut y avoir des choses qui n'ont pas marché, mais je pense que ça existe partout, et comme l'a dit Mohamed Kalambaye tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec l'équipe, ça c'est le comportement des supporters, les supporters ils sont comme ça, bon, le favoritisme, bon, ça peut arriver,
ça et peut ça arriver. Crée des frustrations ça quand crée, même.
Tout à fait d'accord, mais globalement, il faut tirer chapeau à ce pays.
Alors, docteur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Franklin Matumaini, je vous appelle depuis Bukavu, dans la province du sud Kivu. Hormis certains ratés dus à un certain comportement antisportif de certains participants à la CAN, qui ont exhibé des comportements et images qui ne font pas respecter les peuples africains et qui interpellent la CAF sur un certain nombre de points comme recyclage des arbitres et officiels, éducation des supporters, etc., les pays organisateurs méritent les félicitations et encouragements des autres Africains. Dans un temps très record, la Guinée a prouvé que les Africains sont capables de prendre leur destin en main. Car quelle aurait été l'humiliation de tous les Africains si cette messe africo-africaine se célébrait en dehors du continent tel que certains pays non africains les sollicitaient. Quant à la RDC, il faut tirer la leçon que c'est très souvent la préparation qui fait défaut, car notre équipe, avec les peu de préparation effectuée, a su faire le nécessaire. Coup de chapeau à la Guinée équatoriale et coup de chapeau à Flora Ibengué.
Alors, l'auditeur vous rejoint un peu.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est le bon sens, en fait. Hein. C'est le bon sens. Et là, je reviens encore sur ce qu'a dit Mohamed Kalambaye tout à l'heure. Il ne veut pas que les bénéfices reviennent à Florent Ibengué tout seul. Il a raison, parce que c'est...
Mais quand on parle de Florent Ibengué, on voit tout
évidemment,
le staff.
Évidemment, le staff est inclus. Le staff, parce que c'est un travail d'équipe. Hein. On ne s'en rend pas souvent compte, mais c'est un travail de plusieurs personnes. C'est plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Évidemment, lui, c'est le boss. C'est lui qui donne les directives, mais l'exécution, il y a beaucoup de monde autour. Et alors, effectivement, nous n'avions pas beaucoup de préparation, et moi je tire mon chapeau à la RDC. Florent Ibengué a réussi à créer un mental autour de cette équipe, une homogénéité, et ce sont des garçons qui arrivent pour défendre l'honneur de leur pays. Moi, je leur tire mon chapeau parce que ils sont beaucoup mieux en Europe, mais ils avaient cette envie là de se dépenser pour leur pays, et bien félicitations, et ils l'ont fait de quelle belle manière. Il y a encore du travail, mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui vous ont marqué lors de cette compétition, docteur Jimmy?
Florent Ibengué, oui.
en premier.
Non, je veux dire ceci que, vous voyez, il y avait beaucoup d'entraîneurs expatriés. Le nôtre est le seul qui est arrivé dans le dernier carré, dans le carré d'As. Bon, moi, j'ai une fierté personnelle pour ça, parce que ça montre que il y a beaucoup de capacités dans notre pays. Il y a des gens extraordinaires. Il y a du talent et il faut simplement l'exploiter.
Merci, docteur Jimmy Kabongo-Herbert Tshibanda. Votre analyse aussi ou votre lecture de l'organisation même de cette compétition par la Guinée équatoriale en un temps record.
Bon, mais écoutez, moi j'étais très peiné, hein, même au début de la compétition, même si on pouvait se permettre de faire une évaluation ex ante, donc au début même de la compétition. Je crois que ça relèverait du miracle pour certains que la Guinée équatoriale soit en mesure d'accueillir cette grande messe du football et qui avait le risque de prendre une autre direction, puisque vous rappellerez que le Qatar, il vous souviendra plutôt que le Qatar se proposait de recevoir son hospitalité pour l'organisation de cette grande fête du football en dehors du continent. Vous voyez ce que ça pouvait représenter. Moi, j'étais peiné et même sidéré d'entendre certaines personnes et critiquer l'organisation déjà d'entrée de jeu. Je ne vais pas citer toute l'heure et à la fête et certains acteurs de cette CAN. Je me vois peut-être un peu obligé. Je n'étais pas d'accord avec les discours, par exemple, du sélectionneur du Congo-Brazzaville, Claude Leroy, et qui a parlé de l'histoire du bus et des embouteillages. D'accord, il n'y avait pas de climatiseur dans les bus et j'en passe. Bon, mais écoutez, on pouvait quand même tout de suite comprendre que la Guinée équatoriale a fait le maximum pour nous offrir d'abord l'organisation de la CAN sur le sol africain. Et pour ce faire, elle méritait des circonstances atténuantes. Il ne fallait pas s'en plaindre comme c'était le cas dans les chefs de certains acteurs qui étaient impliqués là-dedans.
Qu'est-ce que vous entendiez par
attribue l'organisation d'une compétition comme celle-là à un pays, en fait, en termes de temps, c'est minimum 2 ans. Le Maroc qui a décliné l'offre et avait suffisamment de temps, mais la Guinée équatoriale, non seulement qui n'avait pas suffisamment de temps, mais elle a accepté de prendre les risques peut-être de contaminer le peuple guinéen en acceptant toutes ces délégations qui devaient venir en dépit des mesures qui étaient prises, bien entendu, pour contrôler tous les acteurs, même les supporters qui arrivaient sur le sol de la Guinée équatoriale. Pour toutes ces raisons-là, la Guinée méritait vraiment des égards, méritait un traitement avec beaucoup d'égards, mais surtout...
Est-ce que vous parlez de favoritisme, là?
Oui, allô?
Est-ce que vous parlez du favoritisme lorsque vous dites que la Guinée méritait...
Non, ce n'est pas du favoritisme, c'est vraiment sur l'arbitrage, si vous voulez. Mais je voudrais d'abord dégager, je donne une image. Donc la Guinée, pratiquement, il ne faudra pas que ce soit un mauvais exemple à l'avenir, que désormais ça servira de jurisprudence. Donc le comportement de ceux qui continuent à critiquer la qualité de l'organisation, et moi je pense qu'ils sont comme un visiteur qui ne savait où mettre sa tête, et quelqu'un de bonne foi vous dit, écoutez, passez-lui au salon, vous lui dites, je ne suis pas sur un bon matelas. Et le matin, il vous dit, monsieur, il n'y a pas de petit déjeuner, vous allez vous contenter du dîner et du souper. Vous vous dites, non, il me faut un déjeuner, donc je crois qu'il faut être réaliste. Et la Guinée a fait d'énormes sacrifices, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu la pelouse qui est arrivée. Même le jour que la compétition a commencé, on continuait à installer encore les projecteurs. C'est d'énormes sacrifices. Je crois qu'il y a même un coût sur le plan économique. Mais par rapport à l'arbitrage, bon, il ne faut pas réinventer la roue. Hein. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'on a vécu ça. Nous avons vécu ça au Brésil. C'était à la Coupe du Monde. C'est une compétition qui a une grande envergure par rapport à la CAN. Et moi, je crois que c'est cela. Il y a eu des ratés même au Brésil. Il y avait des stades qui n'étaient pas prêts le jour où on a lancé la Coupe du Monde. Donc moi, je crois que... Là, c'est pas très encourageant à l'égard de la Guinée. Il faut plutôt dire chapeau bas.
Alors, on va prendre rapidement pour vous, Herbert Tshibanda, cette réaction qui nous vient de Béni au Nord Kivu.
Je suis Samuel Mouindo Firassi, depuis Mutonga, territoire de Béni dans le Nord Kivu. J'estime que la CAN 2015 s'est globalement bien déroulée, sauf quelques cas d'irrégularité observés lors du match de quart de finale entre Tunisie et Guinée équatoriale, où on a observé des échauffourées. Selon moi, les vainqueurs l'ont mérité. Toutefois, je suggère que les joueurs et supporters africains doivent évoluer dans le fair play et les arbitres africains doivent faire preuve de beaucoup plus de neutralité lors des matchs qu'ils officient.
Alors, réaction Herbert, les joueurs, les supporters, les joueurs, les supporters africains doivent avoir, doivent encore évoluer dans le fair play.
C'est ce qui est recommandé. Je suis d'ailleurs heureux d'apprendre que la RDC, c'était l'équipe fair play. En dehors du fait que nous avons terminé à la troisième place, je crois que là, le public ne s'était pas bien comporté. Vous le savez, la foule n'a pas d'âme. La foule a toujours été folle, quelquefois. C'est aussi un monde de passion. Il faut savoir bien gérer. Et je crois que les Équato-Guinéens n'espéraient même pas atteindre cette étape. La compétition n'ont pas eu le temps de se préparer.
Merci.
Quand ils sont arrivés à cette étape, ils ont tout de suite rêvé la finale. Comprenez un peu, c'était des ambitions on ne peut plus démesurer. Alors ça peut peut-être s'expliquer. Moi, je pouvais condamner si l'impunité s'en était suivie.
Merci.
On a vu ce que la CAF a fait. On a sanctionné l'arbitre. Et même au niveau des autorités politico-administratives, au niveau du pays, il y a des mesures qui étaient envisagées. Je crois que c'était quand même suffisant.
Merci Herbert Tchibanda. Mohamed Kalambayi, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour la prochaine CAN 2017?
Pour améliorer la prochaine CAN, si elle est organisée dans un pays africain, il faut tout simplement améliorer l'organisation. Cette organisation-là ne peut pas attendre seulement l'organisation d'une coupe. Elle doit être omniprésente pendant qu'on joue le local, pendant qu'on essaie d'assister, de former des jeunes gens. Il faut qu'on les forme dans la discipline, dans l'ordre et le bon vouloir de pouvoir faire quelque chose pour le sport africain plutôt.
Alors, Mohamed Kalambayi, il y a des auditeurs ou des observateurs qui ont quand même critiqué certaines pratiques de la CAF lors de cette CAN 2015. C'est par exemple le cas du match quand il fallait départager le Mali et la Guinée avec le tirage au sort qu'on n'a pas imposé. C'était ça qu'il fallait pour pouvoir départager les deux pays. Il y a des gens qui ont critiqué cette pratique-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi, je pense que, madame, quand on a terminé ces épreuves avec 90%, parce qu'on vous a soutiré 2%, pour avoir été irrégulier au cours, cela ne veut pas dire que vous ne valez rien. Le problème ici, nous l'avons dit, nous l'avons souligné, c'est pratiquement la chanson pour tout le monde. L'organisation nous a satisfaits de façon que ça s'est terminé. C'est une bonne façon pour, si nous devons revenir en arrière, pour voir comment est-ce qu'on pouvait organiser cette coupe. Madame, ce sont des petites choses qu'il faut essayer de revoir dans toutes les organisations africaines qu'on retrouve un peu de non-sens de tel ou tel autre sujet. Mais il ne faut pas en tenir compte. Mais on en tient compte, je m'excuse beaucoup, à ce que ça marche par la suite. Et c'est comme ça que nous pouvons l'admettre.
Par rapport au Léopard de la RDC, vous qui avez été champion d'Afrique en 68 et en 74, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette équipe s'améliore et espère décrocher peut-être la prochaine coupe, la troisième coupe d'Afrique?
Ce qu'il faut, madame, c'est de l'expérience et de l'expertise dans le staff. Des jeunes gens qui sont là aujourd'hui, il leur manque de petites quelque chose parce qu'ils n'ont pas connu de compétition comme ça. Le staff qui est là n'a jamais été en grande compétition. Alors, il faudrait qu'à côté, il y ait une ou deux personnes qui peuvent dire voilà de quelle façon nous pouvons évoluer pour que nous puissions avoir le palme.
Est-ce que vous voulez dire par là qu'il faut consulter ceux qui ont participé à ce genre de compétition, comme vous par exemple?
Pourquoi pas, madame? Parce que quand on passe de l'expérience, c'est le temps que vous passez dans une entreprise. Ce n'est pas l'expérience parce que vous avez été à l'université. Je ne sais pas si je dois vous donner des grands exemples. Vous avez les Platini aujourd'hui qui sont présidents de l'UEFA. Il n'a jamais été dans une université pour apprendre à le devenir. C'est tout simplement parce qu'il a joué au football. Et ce football, il l'a propulsé là-bas.
Merci Mohamed Kalambaï, le docteur Chimi Kabongo. Que faut-il améliorer pour la prochaine compétition 2017?
Mais écoutez, on peut toujours faire mieux, hein. Il y a des petites choses qu'il faut améliorer, effectivement, mais je pense que dans le cas précis de la Guinée équatoriale, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et je crois qu'ils l'ont bien fait dans la mesure de leurs possibilités. La prochaine compétition aura lieu en 2017, donc on a le temps de planifier, de régler certaines choses. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que le Mali...
En espérant qu'il n'y aura pas une épidémie qui va apparaître à la prise.
Oui, surtout, vous parlez à un médecin, donc j'espère qu'on ne va pas avoir encore une catastrophe qui va nous tomber sur la tête. Mais vous parliez tout à l'heure du cas du Mali et de la Guinée. Bon, ça c'est dans le règlement, c'était fait comme ça bien avant, ça n'a rien à voir avec la Guinée équatoriale, c'était quelque chose qu'on pensait qu'il n'arriverait jamais, mais c'est arrivé. Est-ce que la CAF va réfléchir et voir comment elle peut éviter qu'une équipe soit éliminée au tirage au sort? Je ne sais pas, mais c'est un cas qui n'avait pas été prévu et c'était déjà bien avant qu'on arrive en Guinée équatoriale. Donc voilà, tout à l'heure vous parliez de la RDC, qu'est-ce que la RDC doit améliorer, doit faire? Mais c'est continuer à travailler, parce que comme l'a dit M. Mohamed tout à l'heure, l'expérience, c'est dans le travail, c'est en jouant des matchs FIFA. Ne pas attendre un mois avant le début de la compétition pour réunir les joueurs.
Ça aussi c'est un problème.
C'est un problème, donc il faut continuer à travailler. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. On a une bonne base. On a un staff technique qui est compétent. On a des joueurs qui sont compétents. Il manque très peu de choses. Ce qui manque, c'est maintenant l'homogénéité, la complicité, la complémentarité.
Alors vous allez devoir conclure aussi. Excusez-moi de m'avoir arrêté.
La complémentarité entre les joueurs, et ça, ça va venir avec le travail, avec des matchs, et encore des matchs, et encore des matchs, et des conseillers, évidemment, comme l'a dit tout à l'heure M. Kalambaï, eux, ce sont des gens qui ont gagné des coupes, donc ils peuvent donner des conseils aux jeunes,
associés,
donner de leur expérience, et je pense qu'on va y arriver. Mais la première chose qui est bonne dans cette équipe de la RDC, c'est que tout le monde va dans le même sens, et les joueurs, et le staff technique. Ça, c'est important. Parce que souvent, à l'époque, il y avait une distance entre les joueurs et leur staff technique.
Merci, docteur Jimmy Kabongo, Herbert Tshibanda. Comment entrevoyez-vous l'avenir des Léopards de la RDC?
Oui, si vous permettez, je peux dire un mot d'abord sur le règlement.
Allez-y, Herbert.
Pour tirage au sort, très rapidement, je vais dire un mot sur la RDC. Vous m'entendez?
On vous entend. Vous pouvez y aller.
Oui, justement. Bon, je crois que même s'il y a eu des petites choses qui n'ont pas marché, mais il y a aussi des petites choses qui font très mal. Par exemple, le règlement, là, qui a prévu en cas d'égalité parfaite dans au niveau de groupe, au niveau des poules, qu'on puisse procéder au tirage au sort, comme c'était le cas. Moi, je crois que c'est un peu cruel et c'est même suranné, parce que quand on prend l'exemple de l'UEFA, qui est d'ailleurs résumé là-dessus, ils sont en train de repenser une autre façon de faire, de manière à ce qu'on n'ait pas ce choc-là. Comment on légifère pour l'avenir? Je crois qu'il faut repenser ces règlements-là. C'est un problème, un peu comme on avait opté pour la prolongation mort subite. On a compris que ce n'était pas bon, on est revenu là-dessus. Je crois qu'il faut revoir ce règlement.
Par rapport à la RDC?
Sinon, j'avais quelques propositions. Mais pour ce qui concerne
la RDC,
notre 11 nationale, pour la RDC, je crois qu'il faut continuer à assurer la stabilité et bien entendu qui est tributaire de la régularité des joueurs qui viennent en sélection. Et je crois que M. Kalamba et moi-même ne va pas me contredire. Je ne savais même pas que c'était lui alors que j'étais un de ses grands fanatiques quand il était encore gardien début au Stade Moinqué. Je me rappelle quand il s'entraînait, j'allais applaudir.
Merci.
Alors, donc je crois qu'il y a la régularité, il y a la stabilité et qu'il faut favoriser.
Merci, Herbert.
Peut-être essayer de concevoir, garder les mêmes groupes et même les staffs, faire confiance et profiter au maximum de
Merci,
journée.
Herbert Tshibanda. M. Kalambaï, un mot en guise de conclusion.
En guise de conclusion, il faudrait que tout le monde soit derrière cette équipe nationale de la République démocratique du Congo, parce que aujourd'hui tout le monde converge vers le football. Quel que soit les qualités ou bien les niveaux des gens, aujourd'hui tout le monde converge vers le football. Et ce football-là, je crois qu'il est en train de nous unir, et ce football-là, je crois qu'il faut le respecter. Pour le respecter, il faut mettre des gens responsables pour qu'on essaie de marcher et dans la discipline et dans le vouloir.
Merci Monsieur Kalambaye, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Irung, Guy Mathé, Berry Franklin Luchaka sous la supervision de Ben Kabamba. Merci à Eric Sidiakala qui était à la mise en onde au micro Kelim Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.